7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, émission consacrée aux révisions d'examen, bien apprendre et rester zen. Et oui, la pression monte ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors si une petite voix murmure à votre oreille, il y a beaucoup trop de choses à apprendre, je ne sais pas par où commencer. Pas de panique, on va en discuter avec nos invités spécialistes de méthodologie, de mémorisation, de gestion du stress. Et bien sûr, on attend vos témoignages et vos questions, les grands frères et les grandes sœurs. Vous pouvez bien sûr donner les conseils qui vous ont tant servi à réussir vos examens et puis bien sûr aussi à soumettre vos problèmes. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous laisser des messages et nous appeler en direct gratuitement. Je vous présente nos invités. Anne de Pomereux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formatrice et coach en mémoire et méthodologie. Vous avez publié Éloge de la passoire, hein, comment fonctionne la mémoire aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous étiez venu nous en parler, mais là on va vraiment se focaliser sur les révisions d'examen et sur les jeunes. A priori, c'est l'âge d'or pour la mémoire, les
oui,
jeunes.
Oui, c'est l'âge d'or pour la mémoire. Oui.
Jusqu'à quel âge?
Jusqu'à 25 ans à peu près. Alors après, tout dépend ce qu'on en fait de notre mémoire. Si on l'entretient, elle continue à être très très fonctionnelle jusqu'à 95 ans.
Bon, alors vous voyez, les voisins et les voisines, en tout cas, pas d'excuses. Hein. Si vous êtes en révision d'examen, vous avez une petite Ferrari dans le cerveau, si vous savez vous en servir, du moins. Céline Gouret également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Sophrologue, spécialisée dans la préparation des examens et concours des lycéens et des étudiants. Vous les préparez
absolument.
Aussi bien pour les épreuves écrites que
pour, et
pour l'oral.
Les oraux, absolument.
Et oui, l'oral,
oui.
Le fameux oral où on perd tous ses moyens. Vous êtes très occupée en ce moment.
Oui, c'est la période très chargée, période des révisions, période des concours, des examens. La bonne nouvelle, c'est que on peut gérer le stress.
Et puis surtout, il y a des applications
et des applications
aussi, hein, grâce au téléphone.
Absolument, et qui sont très utiles et dont on parlera peut-être.
Bien sûr, et on va donner des conseils concrets. En fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comment apaiser les cauchemars des enfants? Allez, je vous lis quelques commentaires, témoignages d'auditeurs. Miguel à Brazzaville, au Congo Brazza. L'examen ne se prépare jamais la veille. Il faut travailler tous les jours. Pour bien réviser, il faut éteindre la télé, s'abstenir de voir des filles, manger du chocolat et se détendre.
Ça, c'est tout à fait juste. Il parle du chocolat, c'est très juste parce que dans le chocolat, il y a du magnésium. Et le magnésium, c'est excellent. C'est un anti-stress formidable. Donc, il y a d'autres aliments qui contiennent du magnésium. Mais le chocolat, le chocolat noir. Hein,
ouais.
Surtout.
Bon, pour les filles, ça vous regarde, hein, les uns et les autres. Et travailler tous les jours, oui, mais c'est facile à dire. Mais est-ce que tout le monde le fait? Bien sûr qu'il faudrait réviser tous les jours de l'année.
C'est ça. En fait, le problème, c'est de comment mettre ça en place toute l'année. Parce que très souvent, les révisions, est-ce que ce sont des révisions ou est-ce que c'est j'apprends tout ce que je n'ai pas appris pendant l'année?
Ouais, la grande question.
La grande
Souleymane,
question.
À Abidjan. Moi, dans la salle d'examen, pour me calmer, je prononce le nom de ma maman. C'est ce que j'ai fait quand j'ai passé mon baccalauréat.
Très bonne technique, effectivement. Les mots peuvent tout à fait induire un calme intérieur nécessaire à la réussite et à avoir accès à tout son potentiel. Donc, pour cette personne, c'est le nom de sa maman, mais ça peut être aussi tout simplement le mot calme, le mot cool, détente, chill.
C'est ça.
Des mots qui vous parlent et qui vous apaisent.
À prononcer clairement, à prononcer, à murmurer ou
alors on peut le prononcer mentalement, on peut le prononcer tout à fait mentalement, mais ce que je conseille, ce que je recommande, c'est de le synchroniser avec sa respiration. Donc j'inspire par le nez tranquillement, je prononce mon mot mentalement, celui qui m'apaise et qui me fait du bien. Et tranquillement, je vais souffler pour vraiment l'imprimer en moi et qu'il fasse effet en moi pour trouver ce calme dont j'ai besoin pour composer.
En début d'épreuve, prendre une petite minute pour
absolument.
Ça. Ça peut être pas mal.
Absolument.
Malolo à Pointe-Noire nous livre sa méthode pour réviser, c'est pour vous Anne de Pomereux, pour réviser l'histoire et la géographie lors de son bac. Voilà c'est ce qu'il dit, je numérotais les paragraphes de mon cahier. Je mettais le même numéro dans la marge avec une ou deux questions dont les réponses se trouvaient dans le paragraphe. Et ainsi, après avoir posé la question, je refermais le cahier en essayant de répondre à ces questions avec mes mots. Et une fois de temps en temps, je jetais un coup d'œil quand j'oubliais une date ou un nom. Et ça m'a plutôt réussi.
Oui, c'est très bien.
Formuler des questions qui pourraient tomber, finalement.
Absolument, en fait. C'est les questions qui induisent les réponses. Donc, il faut mieux apprendre les questions que les réponses, presque. C'est paradoxal, mais c'est une très bonne technique, tout à fait. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est de l'appropriation des contenus.
Ouais.
On apprend mal les mots des autres et ce qu'on n'a pas vraiment digéré, mastiqué, questionné, etc. Et donc, à cet âge-là, ils sont capables, en fait, d'apprendre et de recracher. C'est ce qu'ils font la plupart du temps.
Ouais.
J'appelle ça « j'apprends et je vomis sur ma copie
ouais. ».
Mais d'abord, ce n'est pas du tout durable et ce n'est pas du tout intéressant. Donc, ce n'est pas motivant.
Alors, après, il y a quand même des épreuves où les correcteurs attendent des mots-clés.
Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, des mots-clés, c'est pas tous les mots.
Scientifiques, notamment.
Non, mais là, par exemple, un cours d'histoire géo, etc., des mots-clés, certainement, mais pas tous les mots du prof, vous voyez, c'est pas du rabâchage,
voilà,
en fait.
On n'est pas sur le par cœur. Freud, bien nommé, 24 ans, en Master 1 à l'université de Bangui, en Centrafrique. La révision d'examen chez moi, c'est comme une boule de neige. Plus je révise, plus le stress m'envahit, plus tout se passe bien lorsque j'entre dans la compétition écrite.
Mais le stress, on a besoin d'une forme de stress. C'est un stress positif qui va générer de l'adrénaline et qui va décupler un petit peu notre potentiel. Celui-là, c'est du bon stress et il est nécessaire et il est très, très important. Ce qu'il ne faut pas, c'est être paralysé par un mauvais stress qui va vous donner des symptômes physiques, qui va vous empêcher justement de...
Ce mauvais stress, il peut paralyser jusqu'à quel hauteur en proportion de ses capacités intellectuelles et cognitives.
Ça peut être très important. Il y a certaines personnes qui peuvent vraiment ne plus avoir du tout accès à tout ce qu'ils ont appris et mémorisé.
C'est normal. Ouais. C'est normal
ça, parce que y compris dans le fait d'aller rechercher ses connaissances.
Quand il y a un trop grand stress, une peur, en fait, c'est toujours une peur. Ce qui se passe, c'est que l'amygdale, qui est une petite structure dans le cerveau un peu primitif, au fin fond du cerveau, se met en alerte et déclenche des hormones qui vont mettre le corps en mode survie. Donc, je suis menacée, je vais fuir ou je vais attaquer. Et pour ça, ça débranche l'accès au cortex, aux connaissances.
Ouais.
Parce que sinon, on ne partirait pas assez vite, vous voyez, en mode survie. Il faut que ce soit automatique.
On écoute le témoignage d'un auditeur, Steve, au Cameroun.
Chaque fois que j'ai examen, évaluation, à partir d'un mois, trois semaines, deux semaines, le stress, il commence à me prendre jusqu'à la veille de l'examen, et même le jour de l'examen. Moi, j'ai jamais pu trouver une astuce pour gérer tout ce stress. Tout ce que je me dis, c'est quoi ? C'est j'étudie, je cumule au maximum d'informations, et lorsque j'arriverai devant mon épreuve, tant mieux si ce que j'ai lu, si ce que j'ai étudié arrive, et que j'arrive même à comprendre ce dont il est question dans mon épreuve, pour mieux traiter. Ou alors, le cas échéant, bon, de toutes les façons, je me serais donné au max.
Bon, Steve est finalement assez fataliste, a-t-il raison ?
Non, parce que finalement, il dit que le stress commence à venir un mois et demi, je crois, avant l'épreuve. Mais plus vous allez pratiquer, par exemple, des exercices de respiration régulièrement avant l'épreuve, plus vous allez arriver à gérer votre stress et devenir acteur et non plus subir comme ça ce stress. Et en devenant acteur, eh bien, on devient de nouveau maître de soi. Et si vous voulez, c'est par la respiration que vous allez pouvoir arriver à contenir ce stress, à le gérer et à être maître de vous-même. Mais d'une façon un peu régulière.
Quand on vous entend, ça veut dire finalement, Céline Gouret, que la gestion du stress fait partie des révisions. Ça pourrait être inclus démarrage de séance,
tout
par exemple, avant de commencer à faire des fiches, par exemple.
Mais tout à
indispensable.
Fait. Indispensable. Oui. Indispensable. Parce que pour bien apprendre, je crois qu'il faut vraiment être dans le calme, être apaisé et se libérer un petit peu de tout ce qui vous
dérange. Il ne faut pas
être
envahi par des distractions, des dispersions internes, dont le stress, en fait.
Absolument. Et donc, le stress, quelques respirations avant de commencer à travailler et de se mettre à réviser, va de toute façon être bénéfique. Parce que vous allez gérer votre stress, parce que votre cerveau sera plus disponible à la mémorisation, à la compréhension.
Quand vous dites quelques respirations, mentalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Quelles images mentales on doit faire venir pour être bien disposé ensuite à commencer à réviser ?
Alors, C'est surtout, on peut synchroniser la respiration, soit avec des images de calme, d'apaisement, de nature tout simplement, de lieux de ressources, de lieux apaisants. Mais ça peut aussi, comme on le disait tout à l'heure, synchroniser la respiration avec une phrase positive, un mot positif, un mot qui vous fait du bien. C'est en fonction, il y a des gens qui seront plus sensibles à des images, des gens qui seront plus sensibles à des mots, et il faut trouver ce qui vous convient le mieux. Et toujours, c'est vraiment, c'est pour ça que j'insiste, c'est la respiration qui sera toujours le plus important. Plus je vais prendre conscience de ma respiration, plus je vais utiliser ma respiration, plus je vais sentir le calme qui s'installe en moi. Et je vais devenir à ce moment-là vraiment maître de moi-même et de mon stress.
Est-ce qu'il y a des heures de la journée, Anne de Pombreux, où la capacité de mémorisation fonctionne à plein régime ?
Ça dépend des âges, ça dépend des individus. A priori, le matin, c'est mieux. Mais chez les jeunes, ils aiment bien travailler tard le soir. Il y a des heures vraiment, alors pour le coup, favorables pour personne, enfin défavorables pour tout le monde. C'est juste après le déjeuner, par exemple, ou... Des bons horaires, c'est fin de journée. Vous voyez, au moment où le soleil se couche, là, entre, alors en hiver, en métropole, c'est 17h, 19h, c'est un peu plus tard en été. Et puis, les jeunes, parfois, certains aiment et sont efficaces tard le soir. Alors, après se pose le problème du sommeil, qui n'est pas un petit problème, parce que, évidemment, c'est comme la respiration. Si on veut être efficace, il faut avoir bien dormi, c'est vraiment la colle de l'apprentissage, le ciment des apprentissages, c'est le sommeil. Donc si vous avez un sommeil agité, et trop peu efficace et puis trop court...
Qu'est-ce que ça pénalise dans le fonctionnement de la mémoire, exactement ?
L'accès aux données. On a appris, elles sont là, mais l'accès aux données se fait moins bien.
On ne peut pas aller repêcher les données qui sont stockées dans le cerveau. Céline Gouret, vous êtes plutôt partisane dans l'organisation d'une journée de révision, de plutôt pas trop réviser le soir, non?
Alors, non, je rejoins ce que dit Anne, c'est-à-dire que je crois qu'il faut laisser suffisamment de place au sommeil. Je crois que ça, c'est vraiment l'essentiel. Un jeune a besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Et il faut considérer que ce temps de sommeil, il doit être respecté. Et que ce n'est pas du temps perdu, parce que j'entends beaucoup de jeunes qui me disent « Mais si je dors, je perds mon temps, je ne peux pas travailler. » Non, c'est un mauvais raisonnement. Il faut vraiment garder ce temps de sommeil. Parce que pendant le sommeil, il se passe beaucoup de choses dans votre cerveau. Et vous laissez le temps à votre cerveau de faire tout ce qu'il a à faire.
Dans magazine, en fait. Et pendant le sommeil, les neurones, en fait, le circuit neuronal de la mémorisation se rejoue, ça repasse, et donc ça creuse le sillon. Si vous n'avez pas le sommeil, ça ne creuse pas, et donc c'est oublié.
Lire le soir, avant de s'endormir, les fiches qu'on a faites dans la journée, ou les chapitres que l'on a révisés, que l'on a travaillés, bonne idée ou pas
Alors, déjà, lire, ça sert...
Relire le soir.
De relire ou lire, ça ne sert déjà pas à grand-chose, en fait. Donc, dans une stratégie d'apprentissage, c'est probablement ce qui est le moins utile. Moins efficace. Donc déjà, je trouve que c'est une mauvaise idée. Ensuite, lire le soir, oui, c'est pas mal, parce que on se dit, c'est juste avant le sommeil, donc c'est ce qui va se rejouer dans mes neurones pendant le sommeil, pourquoi pas.
Mais il vaudrait mieux faire un petit QCM, par exemple, se poser des questions et se réciter des choses.
Exactement. En fait, c'est pas tellement lire qui est efficace, c'est faire ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire revenir sur ce qu'on a appris, avec un questionnement comme vous faites, vous, les journalistes, en fait. C'est ça qui fait qu'on apprend.
C'est-à-dire la technique de Malolo, je me repose les questions qui sont dans la marge du cahier.
Exactement.
Et je vois si j'arrive à y répondre.
Le questionnement.
Donc, c'est-à-dire d'aller rechercher les données.
Repêcher ce que j'ai en moi.
Exactement.
Et compléter s'il manque des trucs.
Plutôt que de relire les connaissances
à mémoriser. Mais
relire,
si vous voulez, ça donne bonne conscience. Mais en dehors de ça...
Est-ce qu'il y a une journée de révision type, pour vous ou pas?
Oui, alors, une journée de révision type, c'est une journée qui est déjà planifiée à l'avance. Ça, c'est le plus important. Un bon travail, c'est je planifie, j'exécute et je recommence. Alors, je planifie...
Tout ça pendant 2 mois.
Je planifie, c'est très important parce que, en fait, je sais à chaque... Ce qui bouffe beaucoup d'énergie inutile, c'est quand je commence à travailler, je ne sais pas ce que j'attends de cette séance de travail. Et donc, ce n'est pas hiérarchisé, il n'y a pas d'objectif, je n'ai pas mis de temps limite, etc. Donc ça, c'est la mauvaise planification. Si en amont, j'ai planifié ma journée, on est vendredi aujourd'hui, ce week-end, allez, je travaille samedi, disons, de 9h à 19h, et je sors le soir parce que j'ai besoin aussi de me divertir. Et dimanche, je fais un peu une grasse mat et je recommence de 11h à 17h, par exemple. Et ensuite, chaque heure, je sais ce que je fais, combien de temps j'y passe et ce que j'attends de chaque séance de travail. Et les séances de travail, elles sont minutées, elles sont courtes, une demi-heure maximum, et il y a des pauses, et on se régénère l'esprit par
une demi-heure maximum.
Oui, je fais une demi-heure, j'arrête 5 minutes, je recommence une demi-heure, j'arrête 5 minutes. Oui. Parce que là, on est dans un rythme, en fait, d'intensité, mais qui ne va pas m'épuiser. C'est hyper important.
Parce que beaucoup passent des heures devant leur table de travail pour se donner bonne conscience, mais en réalité, l'efficacité n'est pas là. Ouais. Donc, c'est une demi-heure, 45 minutes de plage de travail, où là, la concentration va être maximum.
Exactement. Sans distraction,
sans téléphone.
Voilà.
Sans écran. Et ensuite, on fait une pause. Et là, je me permets de dire que pendant la pause, qu'est-ce qu'on fait ?
Rien.
On respire, on souffle.
On ne fait rien d'écran.
Et on ne revient pas sur son téléphone. Non, parce que être sur son téléphone pendant la pause, ce n'est pas faire une pause.
C'est pause inutile. C'est plutôt aller manger quelque chose,
boire un verre d'eau, manger... Je reviens toujours. On peut faire un petit exercice de détente en se visualisant dans un endroit agréable.
Voilà, ou un petit panier de basket. Allez, on vous en parle.
Tout de suite, je vous propose d'écouter La pression qui monte pour ces étudiants rencontrés à la Cité universitaire à Paris au micro de Ndeye Alatiba.
On nous dit qu'en fait notre vie entière se joue sur nos examens. Et donc du coup c'est quelque chose qui est assez impressionnant et on se dit que rater ça pourrait vouloir dire mettre en danger son futur.
Comment il se manifeste votre stress ?
Un sentiment de danger permanent, d'une espèce d'épée de Damoclès qui arrive, qui serait les examens. Des angoisses, des crises de panique des fois, oui. Moi je sais que je suis des étudiants qui stressent beaucoup pour les examens et qui ont du mal à s'organiser, à gérer leur stress.
Je crois que c'est un peu par à-coup en fait. Et au début, jusqu'à une certaine période, je ne suis pas du tout stressée. Et plus la date approche, et là, plus le stress monte, la panique m'envahit. Et donc du coup, là c'est le contre-coup, quoi. Donc, c'est assez difficile à gérer, surtout pour les nuits en fait, surtout le niveau du sommeil.
Vous avez 22 ans, par rapport à votre parcours, vous avez suivi un parcours normal, donc c'est que vous pouvez vous faire confiance, vous les avez vos examens. Comment ça se fait que le stress, malgré tout, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser ?
Je pense que ça a à voir avec le fait qu'on est une génération à qui on dit beaucoup que les diplômes et les examens sont très importants pour trouver un métier. Je ne sais pas vraiment si c'est une question à laquelle l'éducation nationale peut répondre, si c'est un problème qui peut être géré par eux, mais... C'est quand même un enjeu important parce que ça, je pense qu'on crée peut-être des générations qui sont assez anxieuses.
Et est-ce que vous avez des petites méthodes pour maîtriser, pour dompter votre stress ?
Ce qui peut aider un peu sont les décoctions d'aubépine. Voilà, c'est une petite astuce, ça m'a aidé en tout cas.
C'est une sorte de recette de grand-mère, ces décoctions ?
Ouais. Complètement, ouais, ce sont des recettes de grand-mère, mais voilà. Moi, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné.
Sectionner le travail... Prendre son temps et prendre du temps de repos, ça c'est très important. Surtout quand on est anxieux ou quand les examens sont vraiment une source de stress importante.
Moi j'essaie peut-être de prendre un peu certains comme modèle, ceux qui gèrent leur temps en fait, et les révisions en fonction de leur temps, qui arrivent vraiment à étaler le travail et à se fixer des objectifs et qui y arrivent en fait. Ça, c'est plutôt eux que je prends comme modèle.
J'ai tendance à essayer de voir des amis, quand je me sens assez stressé par l'examen et de partager par exemple avec les autres mes amis qui sont plutôt étudiants en général ce stress ou des fois d'organiser des séances de révision qui finissent par ne pas être des séances de révision mais essayer de s'organiser entre amis pour se soutenir.
Là nous sommes à la Cité universitaire à Paris donc c'est une résidence étudiante internationale. Est-ce que vous voyez le stress géré de manière différente pour certains étudiants qui viennent d'ailleurs ?
Oui, je pense qu'ils ont un rapport différent aux études. Que les étudiants étrangers ont plus tendance à part les Américains qui ont vraiment le problème des dettes, ils sont plus détendus.
Alors Aymeric, tu étudies également en Norvège depuis le mois d'août. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe ?
La différence, je dirais que c'est qu'ils étalent beaucoup plus leur travail et que c'est organisé par la fac. Ils ont des plans à rendre plus en avance ou des devoirs à faire plus en avance pour être validé et pour pouvoir passer l'examen. Mais il n'empêche que le travail est plus étalé sur la durée du semestre et qu'ils ont aussi beaucoup moins d'heures de cours pour pouvoir se concentrer sur la révision et se concentrer sur leur recherche.
Tu trouves que ce système te conviendrait mieux à toi qui es un hyper stressé? C'est comme ça que tu t'es défini tout à l'heure?
Oui, beaucoup mieux. Ça marche effectivement beaucoup mieux. C'est plus rassurant et on a l'impression de pouvoir donner plus de temps à des choses qui nous intéressent, des domaines de recherche qui nous intéressent, sans se soucier trop de notes ou d'avoir une impression de punition, de la mauvaise note ou voilà.
Ce stress, finalement, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir vous mettre dans le bain des révisions?
Sans ce stress, j'ai assez de mal à me mettre au travail et c'est cette adrénaline des fois qui me force à travailler.
Ouais, je crois que oui. Carrément. Oui, parce qu'en fait, s'il n'y a pas la date butoir, oui, je crois que je m'y mets assez difficilement. Ouais. Donc oui, je dois admettre que c'est la motivation, malheureusement.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Il n'y a pas que pour les examens que la peur fonctionne comme motivation quand même. Hein. C'est assez universel, il ne faut pas qu'elle devienne paralysante. C'est toute la difficulté.
Mais Céline, pour ne pas être paralysé par la peur, il faut être dans l'action. Quand on va être dans l'action, on n'aura plus peur. Parce qu'on aura commencé à travailler, on aura commencé à réviser et on va se rassurer. Parce qu'on va avoir derrière soi, ça y est, et puis on aura fait son programme. Et voilà. Et quand on va être dans l'action, la peur va disparaître ou elle va diminuer très largement.
Ce qui fait très peur, c'est d'arriver à l'examen sans savoir.
Exactement.
Alors pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, si on n'a pratiquement pas travaillé pendant l'année, comment on s'organise avec très peu de temps? Avec quelques semaines par exemple?
On va bachoter. On va faire ce que font beaucoup, on va limiter la casse. Donc ça veut dire, mais ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que si la révision, c'est un apprentissage, apprendre, c'est plus long que réviser. Donc à un moment donné, il y a un bouchon.
Il y a des jeunes qui sont quand même assez doués pour savoir ce qu'il faut mémoriser, l'essentiel à mémoriser, qui se constitue des petites boîtes à outils comme ça, de manière très maligne,
Le plus important dans l'appropriation d'une connaissance, c'est de pratiquer ce que j'appelle, je vais prendre l'image du sablier. En fait, vous avez un cours qui est long. Alors, plus on avance dans les études, plus c'est long. Je ne sais pas, moi, un cours en droit, ça peut être 80 pages à apprendre. Et ça, on ne va pas apprendre tout au même niveau. La grande erreur, c'est d'apprendre tout au même niveau. C'est ce que j'appelle le par cœur bête.
En linéaire, un peu.
Linéaire. La bonne stratégie, c'est d'essayer de faire passer cette connaissance dans le sablier pour aller essayer de résumer en le moins de mots possible. Finalement.
C'est le principe des fiches.
Souvent les fiches, ils recopient le cours. Hein. Ils se donnent bonne conscience en recopiant le cours. C'est le principe de déshabiller vraiment pour avoir le squelette, le cheminement de la pensée du cours en fait. Je pars d'où? Je vais où? Et je passe par quel chemin?
Aller à l'essentiel.
Si j'arrive à retrouver ça, alors ça j'ai l'essentiel. Et comme par un peu magie, les connaissances supplémentaires vont venir s'implanter toutes seules. Mais ça demande du temps, en fait. Hein. Et donc, une fois qu'on a déshabillé, on rhabille. Vous voyez ? Je déshabille et je rhabille. Je passe, je synthétise et ensuite je déploie.
On remet des connaissances
donc,
dessus.
Ça, c'est la bonne stratégie.
Allez-vous nous appeler, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez poser vos questions à nos invités. On parle des méthodes de révision pour les examens, de la gestion du stress. Tout de suite, une question d'un voisin postée sur WhatsApp.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Je m'appelle Dingemaya, je suis en classe de terminale scientifique, terminale D. Au cours de répétition, un professeur m'a dit que je connais certaines choses, mais je n'arrive pas à les retransmettre sur ma copie parce que des informations sont mal organisées dans mon cerveau. J'aimerais avoir une méthode pour pouvoir bien les organiser avant l'examen qui approche. Bonne émission à vous et bonne journée aux voisins et voisines qui vous écoutent.
C'est quand même un problème assez répandu, ça. Un prof qui vous dit, oui, tu as des connaissances, je sais que tu connais ton cours, mais tu ne sais pas organiser tes connaissances.
C'est bien la difficulté, en fait, parce que avoir des connaissances et être capable d'utiliser ces connaissances dans un exercice, c'est deux choses qui sont liées, mais qui ne sont pas la même chose, en fait. Et c'est ça, la difficulté. Alors, j'ai retrouvé cette citation de Boileau, que je trouve absolument géniale, elle date d'il y a quelques années. Hein. « Mais hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacée. Donc voilà. Alors
c'est
l'accès,
toute c'est... la mémorisation, ça, c'est ça.
C'est très 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 juste, notamment dans le hâtez-vous lentement. C'est-à-dire que le truc au dernier, la dernière minute, en fait, la connaissance, elle est pas il y a pas suffisamment eu d'appropriation pour pouvoir la ressortir.
Donc le problème là de Ndenge, c'est probablement qu'il apprend. Sûrement un peu trop à la dernière minute et ses connaissances ne sont pas assez consolidées.
Elles
ne
sont pas consolidées.
Et pas bien comprises aussi.
Et pas bien assimilées. Et donc, la meilleure chose, c'est de faire des annales. Il faut qu'il s'entraîne sur des exercices, surtout s'il est scientifique, d'après ce que j'ai compris.
Oui, en terminale D.
Terminale D. Donc, il faut qu'il prenne des exercices et qu'il les refasse. Et c'est en faisant des exercices différents, parce qu'en matière scientifique, il y a 4 ou 5 façons d'aborder la même notion. Il les fait toutes et ça va finir par s'ordonner tout seul dans sa tête.
Céline Gouret.
Mais hâte-toi lentement, je reviens là-dessus, parce que c'est vrai que c'est essentiel. Parfois, les questions sont lues beaucoup trop rapidement et superficiellement, parce qu'ils veulent aller trop vite. Donc, on prend son temps, on lit correctement la question. Parce que parfois, ils passent à côté de la question, parce que la question n'a pas été lue correctement.
Absolument.
Oui, ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Mais... D'autant plus quand on est stressé. Hein.
Mais oui.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur, Michael, qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Michael.
Oui, bonjour.
Michael, vous avez 25 ans et vous êtes courageux parce que vous passez le baccalauréat en candidat libre, c'est bien cela? Vous révisez tout seul ou avec des cours du soir?
Bon, je fais cours du soir, mais souvent je révise seul aussi.
Oui, donc c'est-à-dire que vous êtes seul ou vous avez des cours avec des enseignants?
C'est des cours avec des enseignants.
D'accord, après votre travail, dans la journée?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous faites comme travail dans la journée, Michael?
Bon, dans la journée, je suis vigile.
Vous êtes vigile, d'accord, sécurité.
Oui.
Donc beaucoup debout?
Oui.
Et bon. Quel est votre problème, votre difficulté, Michael?
Bon, ma difficulté est que, genre, si le prof m'explique, j'arrive à mémoriser rapidement. Je comprends les leçons, tout.
Oui.
Mais le soir, après 30 minutes seulement, j'oublie tout.
Ah. Vous avez l'impression donc de bien comprendre, de bien mémoriser, et au bout d'un moment de travail, vous oubliez tout. Et si j'ai bien compris, quand vous vous mettez à votre table de travail pour réviser votre baccalauréat, il est quelle heure?
Bon, c'est à 18h, je pars à l'école, je reviens le soir vers 21h.
Oui.
Je bosse jusqu'à 23h et puis je dors à minuit.
D'accord. Oui,
ça c'est fait pas, des, oui, c'est pas des horaires si différents que ça que des horaires de lycéens. Sauf que la difficulté, c'est qu'il a peu de cours. C'est quoi, 2 heures par jour à peu près?
Michael, c'est ça? 2 heures de cours par jour, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
Voilà. C'est ça. Oui.
Et le bac, les étudiants de terminale, ils ont quand même 6 ou 7 heures par jour. Donc déjà, c'est plus difficile d'assimiler tout un programme de bac en 2 heures qu'en 8 heures par jour.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller alors à Michael? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, mettre à profit le temps passé comme vigile, où on n'a pas le cerveau finalement tellement occupé à réviser, à mémoriser des choses?
Oui, et alors je pense que dans la journée, vous êtes debout, bon ça c'est fatigant, mais en même temps, vous avez beaucoup de temps où vous pouvez finalement digérer l'enseignement que vous avez eu la veille. Et je pense qu'il faut profiter de ce temps de journée dans votre travail, en fait, pour essayer d'assimiler les connaissances.
Ouais. Alors évidemment, un vigile, hein, il ne peut pas sortir ses petites fiches pour revoir ses connaissances, parce que sinon, son patron...
Radio,
voilà.
Avec un écouteur, non? Éventuellement. Est-ce que vous pouvez éventuellement, si vous avez une bonne mémoire auditive, enregistrer sur votre téléphone?
Un petit écouteur discrètement dans une oreille, Michael, ça serait possible, ça?
Oui, oui, c'est assez possible.
Mm-hmm. Et peut-être ça, c'est pas mal, parce que du coup, c'est quand même du travail, et ça peut faire des répétitions astucieuses, ou des podcasts, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément quand même d'outils sur Internet.
C'est ça, mais sinon,
Internet,
on peut tout simplement enregistrer ses propres fiches, enregistrer ses cours, mais vous le disiez, il faut aussi être actif.
Il faut être actif, il faut se poser des questions. En fait, le gros défaut, c'est de vouloir à comprendre sans s'approprier la connaissance. Et ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a compris qu'on a appris. C'est juste deux verbes différents.
Mickaël, en tout cas, vous êtes rudement courageux. Oui. On aimerait bien avoir de vos nouvelles après le baccalauréat. Mmh. Et on vous soutient à mort, Mickaël. Mmh. On est derrière vous, faut pas lâcher. Hein.
Oui, bon courage, Mickaël. Okay.
Bonne journée à Ouagadougou. Une voisine nous appelle de la même ville, d'ailleurs. Mariam, 22 ans, troisième année de licence. Bonjour, Mariam.
Oui, bonjour.
Vous êtes en licence de quoi, Mariam, à Ouaga?
En licence d'analyse politique économique.
D'accord. Alors, quel est votre problème?
Bon, moi, quand je veux apprendre, je lis mes cours comme une récitation, j'enregistre à mon téléphone. Après, je mets mes écouteurs et j'écoute. Mais j'arrive à m'en sortir dans ça. Et quand je veux bosser les maths aussi, je traite beaucoup d'exercices et par fini, je comprends.
D'accord, bon, les maths, vous faites des exos, ça, ouais, d'accord,
ça, c'est bien. Hein.
Lire son cours, ben, c'est un peu ce que vous conseillez tout à l'heure à Mickaël, finalement. Enregistrer son cours et après l'écouter avec son téléphone.
Si on peut faire, alors, Mickaël, je lui conseille ça parce qu'il n'a pas le choix, en fait. Mais c'est quand même pas la meilleure méthode. Je pense que c'est beaucoup mieux de ne pas réciter son cours mot à mot. Il faut le réciter avec ses mots à soi, ce qui est tout à fait différent. Parce que quand vous faites avec vos mots à vous, qui ne sont pas les mots du prof, c'est là que vous faites le travail de compréhension, d'assimilation, d'appropriation, et que vous aurez la connaissance disponible pour pouvoir l'utiliser autrement qu'en récitant votre cours. Parce que, en fait, vous n'êtes jamais interrogé par écrit sur une récitation de cours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment une autre façon de faire. Il ne faut pas, à votre niveau en licence, recracher mot à mot, ça sert à rien, ça, parce que c'est pas de la connaissance disponible efficace. Il faut au contraire, ce que je disais tout à l'heure, déshabiller le cours pour en retenir le cheminement de la pensée avec vos mots, que vous soyez capable de le réexpliquer. En fait, il faut que vous deveniez vous-même le prof de vous-même. Et c'est pas...
Est-ce que c'est clair, Mariam? Ça veut dire que vous allez poser des questions et vous allez y répondre en vous enregistrant sur votre téléphone avec vos... C'est ça, d'une certaine manière.
Alors, si on...
Voilà, c'est ça, d'une certaine manière.
Ce serait encore mieux si vous pouvez travailler en binôme, de pouvoir expliquer le cours du prof avec vos mots à quelqu'un qui ne connaît pas le cours ou qui a été et qui l'a pas appris, vous voyez? Parce que là, vous avez la mesure directe et immédiate de... Est-ce que l'autre, il a compris ce que je raconte ou pas? Donc, est-ce que j'ai été clair? Tant que vous n'êtes pas clair avec votre propre pensée, vous ne pouvez pas l'exprimer par oral à quelqu'un d'autre. Donc, l'oral, c'est génial, parce que ça fait gagner un temps précieux sur est-ce que je sais ou est-ce que je ne sais pas. Tant que vous faites de la récitation comme une poésie, vous ne savez jamais ça.
Allez, bonne chance, Mariam, pour les examens de troisième année de licence à Ouagadougou. Très bonne journée chez vous, Mariam. Merci de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Céline Gouret, vous travaillez beaucoup la sophrologie avec les jeunes que vous accompagnez. En quoi ça peut avoir une incidence aussi sur la concentration ou l'attention, puisque maintenant on parle beaucoup d'attention?
Eh bien, nous utilisons différents outils pour améliorer la concentration et l'attention en sophrologie. L'attention, on a besoin de son corps. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, pour être là, pour être présent, il faut penser à son corps. Et c'est par votre corps que vous allez revenir ici et maintenant. Il faut être dans le présent, dans l'ici et dans le maintenant, pour être concentré. Donc, qu'est-ce qu'on utilise par exemple? On utilise les pieds. Les pieds sont les racines de notre corps. Les pieds nous enracinent dans l'instant présent et nous font être là. Et ça nous
donc
permet d'être davantage
concentré. On ne se tortille pas sur sa chaise.
On ne se tortille pas sur
sa chaise.
On a les deux pieds bien à plat.
On n'est pas,
sur
on
le
est pas au lit.
Pardon?
On n'est pas au lit.
On n'est pas au lit.
Non, mais
on ne travaille
vous
pas.
Vous avez
au
raison
lit.
De le préciser parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent au lit.
Ils travaillent au lit. Alors, on travaille au lit. Donc,
pas bon,
c'est
ça,
impossible.
Bah, où sont les pieds au lit?
Les pieds sont allongés. Ils ne sont pas sur le sol. Donc, exactement. Donc, les pieds sont posés au sol, à plat. L'expression ne pas perdre pied, avoir les pieds sur terre, elles ont un sens.
On peut marcher, par exemple, en révisant?
Alors
Oui, bien sûr.
Il y a des personnes qui ont besoin de marcher, de bouger pour réviser, et qui, ça ancre davantage les connaissances quand on...
Mais le cerveau, il n'est pas hors du corps.
Le cerveau fait partie du corps. Un corps qui va bien est un cerveau qui va bien.
Un petit exercice exemple là, oui. de sophrologie oui. pour être bien dans son corps, bien ancré et pour ensuite faciliter l'attention, la mémorisation.
Alors, puisqu'on parlait des pieds, je vais vous faire un petit exercice au niveau des pieds. Simplement, quand on a les pieds en appui sur le sol, on inspire, on recroqueville ses pieds dans ses chaussures. Et quand on souffle, on laisse les pieds s'étaler à nouveau dans les chaussures en soufflant. Pour sentir que vous êtes bien posé. Et ensuite, vous pouvez faire aussi un petit exercice qu'on peut faire aussi assis ou debout, comme on veut. En étirant les bras, on fait de nouveau avec la respiration. Je reviens toujours à ma respiration. Tout est synchronisé. J'inspire, je pousse les pieds dans le sol. Je lève les bras à la verticale en inspirant les mains vers le ciel. Et tranquillement, je souffle, je laisse redescendre mes bras. Et je reviens ici maintenant. Et j'utilise mon corps pour être là.
Et on utilise parfois des images mentales, dans une main certaines choses, dans l'autre d'autres, les pensées positives, ça arrive aussi ?
Oui, alors ça peut arriver. On peut aussi s'en servir, moi je m'en sers surtout en fait pour se débarrasser de choses qu'on ne veut pas.
Ah oui, ça peut servir un ménage, d'accord.
Un petit ménage corporel. Donc on imagine qu'on a deux sacs poubelles à droite et à gauche, on ouvre ses paumes de main, on remplit ces sacs poubelles de tout ce qui vous empêche de vous concentrer, puisqu'on parlait de concentration tout à l'heure, on met dans ces sacs tout ce qu'on veut plus, les pensées négatives, hein, j'y arriverai jamais, je suis nulle, j'ai pas assez travaillé, je suis nulle en maths, enfin voilà. On inspire, on serre ses poings et en soufflant, vous allez relâcher les poings, ouvrir vos poings et nettoyer, secouer vos bras le long du corps pour faire un grand ménage à la fois de la tête, de toutes vos pensées négatives et à la fois de vos tensions corporelles.
Ouais,
et là, je vous propose de le faire 3 fois cet exercice d'affilée.
Voilà. Il y a une autre chose qui est assez sympa aussi, qui est très efficace, c'est la vidange du stress par l'écriture. Et ça, il suffit de prendre tous les jours 5 minutes pour mettre par écrit toutes les pensées. Oh là là, je suis moche ce matin, j'ai un bouton, j'ai des cheveux blancs, j'ai de la cellule. Enfin, voilà. Ces pensées qui arrivent de toute façon et qui m'envahissent et qui m'empêchent en fait de mettre au
et
travail.
Et on fait quoi avec le papier?
Et là, on le jette.
On le jette.
On le relit pas, ou alors on le met dans un cahier, mais qu'on relit pas. C'est pas le but de relire, c'est le but de
se débarrasser
par l'écriture.
Ouais.
Et c'est des pensées envahissantes, négatives, qui me paralysent, qui m'empêchent de mettre au travail, de me concentrer. Et ça marche très 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 bien ça.
Aujourd'hui, avec les smartphones, tous les jeunes ont accès à des applications gratuites, en tout cas pour les premières séances. Mm-hmm. Et après, on peut s'entraîner
oui.
tout seul.
Oui, oui.
Pour la sophrologie, pour oui. la méditation, pour la gestion du stress.
Oui, alors vous avez plusieurs applications qui sont très bien faites, qui sont gratuites en tout cas sur les premières séances. Vous avez l'application Petit Bambou qui existe pour la sophrologie et pour la méditation que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Vous avez également une autre application qui utilise une autre technique de gestion du stress qui est la cohérence cardiaque. C'est une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et vous trouverez l'application Respire Relax. Donc, cette application, simplement, vous suivez une bulle qui monte et qui descend. Donc, à l'inspire, la bulle monte et à l'expire, la bulle redescend. Mmh. Et vous pratiquez ça pendant 5 minutes et vous allez voir que, en fait, c'est un rythme de respiration particulier qui agit directement sur le métabolisme et qui permet justement de réduire le stress.
Mmh. Anne de Pomereux, les derniers conseils pour la mémorisation, là, pour la dernière ligne droite avant les examens, puisqu'on a bien vu sur la gestion du stress, on va se focaliser. Enfin, on va s'entraîner avec des applications. Est-ce qu'il y a l'équivalent aussi
en mémorisation? Alors, si on connaît les techniques de mémorisation, c'est le moment de les appliquer. Si on ne les connaît pas, c'est le découpage, en fait. Il faut mieux. Si vous avez 4, vous décidez d'accorder 4 heures à une révision quelconque, il faut mieux faire 4 fois 1 heure qu'une fois 4 heures. Voilà. Donc, c'est la gestion de la répartition du temps de révision qui permet aux connaissances de se s'agrémenter, enfin de s'implanter durablement. Et ça, évidemment, on n'aime pas trop la répétition aujourd'hui. Donc, Mais pourtant, c'est ça qui marche. On le disait autrefois, hein, il y avait un dicton, j'apprends, j'oublie, c'est ça. J'apprends,
exactement.
J'oublie, j'apprends,
donc
j'oublie.
On repasse des couches. Merci voilà. beaucoup à toutes les deux pour ces précieux conseils. Céline Gouret, Anne de Pomereux. Anne de Pomereux, vous avez publié Éloge de la passoire aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous d'être passé dans
Merci
le studio.
À vous. Merci à vous.
Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Il sera question d'anxiété, mais dans la petite enfance. Ce sera juste après Downtown. Sing your spot, sing your flag, I won't get mad. I threw the jungle boogie on the overpass. Talked to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life. Downtown, downtown, downtown. That's downtown religion. To the ring, 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 peeped out my window, saw the same old thing. Crying like Jean, that's how I feel. No, no matter cry, I'm on and I play for real. We don't ball, no trouble, we'll kill him dead. Got a spy that morning, snatch his crown off his head. Lord have mercy, that's what I said. Be the pretty big chief on the holiday. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I threw the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life. See, that's downtown, downtown. Downtown, that downtown religion.
Calibre l'esprit, moi. Non, c'est, non, c'est, mon pas tout seul. Downtown, downtown, downtown.
Calling Downtown chez 7 milliards de voisins. Vous êtes en direct sur RFI. On donne maintenant la parole à Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, pour sa chronique Parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
La chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, disponible en podcast. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre. Et nous abordons toujours dans cette chronique parents, enfants d'ici et d'ailleurs des thématiques différentes par groupe de chroniques. Et on est dans le quatrième épisode d'une série consacrée au sommeil des enfants qui suscite beaucoup de questionnements, d'interrogations, de réflexions à la fois des professionnels et des parents. Aujourd'hui, comment apaiser les cauchemars des enfants ?
Eh oui, il y a des cauchemars de toutes sortes. Les enfants voient des petits et des grands animaux qui leur font peur. Ils tombent dans le vide, ils perdent leurs parents ou des êtres chers. Ils sont somnambules. Bref, la nuit, c'est vraiment, il se passe plein de choses. Et en fait, les cauchemars, ce sont des manières de figurer les craintes et les angoisses et de les traduire en expression corporelle, en scène, en image. C'est en fait, c'est un travail, j'allais dire, normal que doivent faire les enfants pour se développer. Donc, il y a plein de petits cauchemars qui font partie du développement des enfants et on pourrait dire qu'ils sont normaux, il faut les tolérer, il faut apprendre aux enfants à les accepter. Et d'ailleurs, ça c'est assez drôle de voir que dans une société donnée, ça peut un peu changer en fonction des lieux. À un moment donné, les enfants expriment, par exemple, en dessous de 5 ans, ils font régulièrement des cauchemars de petits animaux, puis après à d'autres moments de gros animaux. Donc il y a quelque chose qui passe, quoi. Hein.
Dans des cultures différentes, est-ce que les enfants font les mêmes cauchemars? Est-ce qu'ils ont les mêmes monstres? Est-ce qu'ils ont les mêmes chutes dans le vide? Est-ce que je me suis posé la question, il y a une variante ou pas?
Alors en fait, il y a dans les cauchemars qu'on dit banaux, quoi, ce que tous les enfants font, il y a des choses en commun
Par exemple, des animaux, mais la forme des animaux peut varier.
Et de la même le fait de rêver qu'on fait une très grave chute dans
le vide.
Ah oui,
c'est très classique. C'est très, très fréquent.
Partout.
Mais par contre, quels animaux on voit, et puis comment on traduit aussi. On peut, par exemple, ici, les petits Français, ils traduiraient rarement qu'ils ont vu des fantômes ou des esprits. Encore des fantômes, peut-être. Mais alors que, je ne sais pas, en Chine ou au Vietnam, ils parlent beaucoup de fantômes dans les cauchemars.
Donc, tous les cauchemars sont banaux?
Non, il y a des cauchemars banaux qui font partie du développement et il y en a d'autres qui vraiment vont exprimer des choses qui sont soit une grande insécurité, une inquiétude, un trauma, quelque chose qui a été vécu directement ou indirectement par l'enfant. Et dès qu'il baisse la garde, et ben ça apparaît dans ses rêves. Ce sont des cauchemars excessifs et récurrents que l'enfant ne peut ni oublier ni banaliser. Alors là, il faut chercher de quoi ces cauchemars sont le signe. Et il faut soit faire des rituels de protection, c'est ce qu'apprennent à faire en général les mamans, soit des micro-rituels. Hein, on dit on va parler aux animaux, on va interdire aux animaux de venir. Mais si c'est beaucoup plus grave, à ce moment-là, effectivement, il faut faire des petits rituels pour apaiser. Puis si ça ne suffit pas, la lumière, par exemple, parfois ça apaise, ça suffit. Mais si ça ne suffit pas, c'est là où il faut chercher, on va dire, devant des cauchemars inconsolables et qu'il fait la nuit, mais qu'il garde avec lui le jour, qu'il empêche de se concentrer, qui font qu'il a du mal à s'endormir. Alors là, il faut consulter.
Que la maman a inventé, quand ces petits rituels-là ne suffisent pas.
Que la maman ou que la culture a inventé, oui.
Il faut aller au-delà et consulter un professionnel pour mieux comprendre. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau. Bien sûr, toutes ces chroniques sont à consulter en podcast. C'est la série consacrée au sommeil. Le podcast s'appelle « Parents, enfants d'ici et d'ailleurs ». Marie-Rose Moreau, on peut bien sûr citer la revue transculturelle L'Autre que vous dirigez, dans laquelle il y a énormément d'articles consacrés aussi à ces thématiques. Merci Marie-Rose.
Merci.
Dernier épisode la prochaine fois. Pourquoi parfois les enfants n'ont pas sommeil? Mais bon Dieu, c'est ce que disent les parents.
Et voilà. Alors on dit quoi?
Et avant de se quitter, nous accueillons la voisine Diara Ndiaye. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Alors on dit quoi? C'est demain matin, vous donnez la parole à des ambassadeurs un peu particuliers quand même.
Absolument, en place aux ambassadeurs africains, Emmanuel. Entendez par là les porte-étendards de la culture africaine à l'international. Loin de leur terre d'origine, de nombreux jeunes maintiennent les liens qui les lient à leur pays à travers divers moyens comme l'apprentissage de la lecture, des us et des coutumes, des traditions ou alors l'organisation d'événements culturel.
Je marche avec ma culture, je pense avec ma culture. Ça ne voulait pas dire que je n'accepte pas la culture des autres. C'est une richesse absolue. Quand on a une culture qu'on aime et qu'on a grandi et qu'on la transporte avec soi, promouvoir sa culture, c'est très important. Ça fait vivre, ça fait réfléchir, ça donne la joie. On peut être ailleurs, mais on est toujours chez soi. Quand vous exilez ailleurs, vous la vendez, votre culture, vous l'amenez les autres vers vous. Vous donnez et vous l'appréciez les leurs aussi. Donc ce qui fait que vous toujours vivez dans votre pays. L'exil, c'est un passage, c'est pas un déracinement.
Exil, donc ambassadeur à vie, alors de son pays d'origine.
Absolument, Emmanuel.
Alors on dit quoi? Rendez-vous demain à 11h10, temps universel.
Exactement, merci Emmanuel.
À bientôt Diara. Et quant à nous, lundi, 7 milliards de voisins, on parlera du sport et des filles. Elles sont moins nombreuses que les garçons à faire du sport. Pourquoi? Le sport peut-il aider à s'émanciper, à mieux maîtriser sa destinée? Appelez-nous dès maintenant les voisines, évidemment les voisines. Hein. Si le sport a changé quelque chose dans votre vie, 33 1 84 22 71 71. Et merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Delphine de Dianou, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac, n'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions en podcast, bien évidemment, et sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Et vous nous retrouvez aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur les réseaux sociaux. À demain, les voisins.